Vous écoutez, on lit pour vous.
Lorsque la charge mentale devient un mode de survie, un texte de Catherine Damour, paru le 21 janvier 2025 dans le Journal de Lévis. Après avoir étudié la charge mentale chez les femmes durant la pandémie de COVID-19, le réseau des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches, RGFCA, a décidé de réaliser une deuxième étude touchant cet enjeu, soit chez les femmes en situation de précarité financière. En collaboration avec le Centre de recherche sociale appliquée, CRSA, celle-ci démontre de grandes différences entre ces femmes versus celles qui sont plus aisées. Le RGFCA est une table qui regroupe presque tous les organismes qui touchent les droits des femmes dans la région, que ce soit les maisons d'hébergement, le CALAX, les groupes d'agricultrices, les cercles des fermières. Ces acteurs œuvrent tous pour le même but, défendre les droits des femmes. En plus de mener différentes études et projets, le réseau est une courroie de transmission entre la réalité sur le terrain et les instances gouvernementales, explique Andréane Moreau-Barry, chargée de projet pour le RGFCA. Une étude ciblée, appelée « Femmes et précarité économique, le fardeau invisible de la charge mentale des femmes en Chaudière-Appalaches », l'étude du RGFCA a été présentée à l'automne 2024 devant plusieurs acteurs du milieu. Ce que le RGFCA avait pu constater dans sa première étude pandémique, c'est que la majorité des répondantes, qui étaient pour la plupart des femmes plus favorisées, se trouvaient des moyens personnels afin de pallier la charge mentale, comme en allant faire du yoga ou en faisant appel à une personne pour l'entretien ménager de la maison. Andréane Moreau-Barry soutient toutefois que ce genre de solution ne peut pas s'appliquer aux femmes qui se retrouvent en situation de précarité économique. Qu'elles soient monoparentales, immigrantes, en situation de handicap physique ou mental, ou encore qu'elles bénéficient du programme d'aide sociale gouvernementale, celles-ci ne se rendent pas compte de ce qu'est la charge mentale, alors que le fait de vivre dans une précarité économique nécessite beaucoup de travail et d'efforts pour joindre les deux bouts. Je pense qu'elles ne le voient même pas comme une charge mentale, mais plus comme de la survie. Elles jonglent avec tellement d'organismes. Par exemple, si je veux faire un examen de la vue, il y a tel organisme qui l'offre gratuitement, tel jour, puis là, j'ai telle autre affaire qui se rajoute. Ces femmes ont la même pression sociale que les femmes plus favorisées pour que leurs enfants mangent bien, qu'ils participent à des activités. Elles ne veulent pas que leurs enfants voient ou vivent cette précarité financière, décrit-elle. Parmi les enjeux qui ont été ressortis par les répondantes, l'accessibilité aux ressources et à l'aide alimentaire en font partie. Oui, il y a des ressources qui sont créées pour aider les femmes, mais elles ne sont pas appropriées pour la réalité des femmes. Par exemple, il va y avoir de l'aide alimentaire, mais c'est le jour. On s'imagine souvent qu'une personne qui est pauvre n'a pas de travail ou bénéficie de l'aide sociale, donc qu'elle a la possibilité de se déplacer à ce moment de la journée. Mais ce n'est pas la réalité que nous ressortons de cette recherche, ajoute la chargée de projet du RGFCA. En lien avec cet enjeu, le transport en est un qui ressort également. Comme les résultats s'étendent à l'ensemble de la Chaudière-Appalaches, celui-ci devient encore plus important à l'extérieur de Lévis, comme il n'y a pas ou très peu de transports en commun au-delà de ces lignes. Andréane Moreau-Barry indique qu'on peut présupposer que les femmes de Lévis peuvent avoir un avantage dans une situation de précarité parce qu'elles ont accès à des moyens de transport en commun et qu'il y a plus d'organismes dans la ville. du travail à faire. Après ces deux études, le RGFCA compte réaliser plusieurs initiatives afin de sensibiliser davantage la population à l'enjeu de la charge mentale. Bien que les femmes plus favorisées financièrement puissent bénéficier de moyens personnels pour mettre en pause cette charge mentale, il ne s'agit toutefois pas de solution pour régler l'enjeu de la répartition de la charge mentale, principalement dans les couples hétérosexuels, indique la représentante du RGFCA. Notre objectif, après l'étude, est quand même de diminuer la charge mentale de ces femmes, donc nous voudrions faire des vidéos de sensibilisation pour faire comprendre ce qu'est la charge mentale. La majorité des couples étant hétérosexuels, on veut sensibiliser le partenaire à prendre une partie de la charge mentale, donc sensibiliser les hommes à la charge mentale pour qu'il y ait une meilleure répartition entre les partenaires, complète-t-elle. Du côté des femmes en précarité financière, cette étude a permis de mettre en lumière à quel point, quand on vit certaines difficultés, c'est un parcours du combattant presque insurmontable pour s'en sortir, ajoutant que c'est comme un cercle vicieux sans fin. Le RGFCA souhaite également créer des outils pour les intervenants des organismes afin de pouvoir aider plus facilement les femmes à cet effet. La table régionale voudrait aussi présenter l'étude dans les centres femmes de la Chaudière-Appalaches et peut-être, éventuellement, créer des ateliers pour aider à mieux redistribuer la charge mentale. C'était, lorsque la charge mentale devient un mode de survie, un texte de Catherine Damour, paru le 21 janvier 2025, dans le Journal de Lévis.
Votre entreprise est-elle assez diversifiée et inclusive? Un texte d'Annie Lafrance, paru le 20 janvier 2025 dans Le Soleil. Alors que des sociétés américaines et de grandes organisations reculent sur leur politique sur l'équité, la diversité et l'inclusion, EDI, chez nos voisins du Sud, d'autres décident de la renforcer. Walmart, Harley-Davidson, Meta, McDonald's, plusieurs grandes organisations ont récemment fait marche arrière ou mis fin à leur politique EDI, souvent devant la pression de leur conseil d'administration, tandis qu'Apple et Costco se sont engagés à la maintenir. Les entreprises doivent-elles se positionner publiquement? Citation: c'est en tout cas un bon moment pour se questionner sur l'efficacité de sa politique. Fin de citation, répond Gaël Cacharosset, professeur au département de management à l'Université Laval. Elle le voit bien. Il y a actuellement un essoufflement, une lassitude, face à des politiques qualifiées de « woke ». Sans compter le contexte de polarisation politique très présent aux États-Unis. Mais pas seulement là. Citation, on le voit aussi en Europe et au Canada, notamment. Fin de citation, constate la professeure. Mais les entreprises ne peuvent pas se cacher la tête dans le sable. Citation, n'oublions pas qu'en 2041, la moitié de la population canadienne sera composée de personnes immigrées ou de leurs enfants nés au Canada. Les entreprises doivent refléter cette réalité et adapter leur offre et leurs services. Fin de citation, insiste Mme Cacharosset. Pour Gaël Cacharosset, il nécessite d'accélérer le pas. Il est minuit moins une pour les entreprises qui veulent s'engager dans cette direction. En faire un jeu. Pour réintéresser les entreprises à ces enjeux, elle a développé un jeu pédagogique où les participants explorent les notions en lien avec l'équité, la diversité et l'inclusion en milieu de travail. D'abord destiné à ses étudiants, le jeu sort désormais du campus. Une vingtaine d'organisations ont jusqu'à maintenant levé la main et suivi l'atelier, lequel est animé par la professeure. Citation : le jeu « Diversité » vise à développer les bons réflexes face à des situations concrètes. Ça s'adresse autant aux employés qu'aux gestionnaires qu'à la direction. Fin de citation. Les 14 figurines du jeu représentent différents profils, comme une personne vivant avec un handicap, une autre issue d'une minorité visible ou encore vivant avec le spectre de l'autisme. Citation. C'est une façon actuelle et différente de parler de ces enjeux qui demeurent très présents dans nos milieux de travail. Fin de citation, ajoute la professeure. Il faut avancer. De son côté, l'Université Laval, qui a officiellement adopté sa politique EDI en avril 2023, n'entend pas reculer. C'est même le contraire. Citation. Ça nous dit qu'il faut continuer d'avancer. Fin de citation. Répond pour sa part Emmanuelle Caro, vice-rectrice adjointe aux affaires internationales, au développement durable et à l'EDI pour l'Université Laval. Citation. Ces reculs nous montrent que les gains et les acquis peuvent être fragiles. Fin de citation, poursuit-elle. Pourtant, la politique EDI a plusieurs avantages, insiste-t-elle. Elle permet non seulement d'établir un environnement de travail et de recherche sain, mais également prisé par les candidats, ce qui lui permet d'attirer et de recruter les meilleurs talents. Citation. Je crois que c'est une valeur ajoutée comme employeur. Fin de citation, dit Emmanuel Caro. L'Université Laval veut être un exemple en la matière. Citation. Plusieurs organisations ont contacté notre bureau de l'EDI pour être conseillées et aiguillées. Fin de citation, confirme la vice-rectrice adjointe. Au diapason avec la clientèle. Contactée par Le Soleil, plusieurs organisations disent maintenir leur politique. C'est le cas chez IA Groupe Financier, où la politique EDI est, citation, « un facteur essentiel à notre croissance », fin de citation, nous indique-t-on. Incarnant les valeurs de l'entreprise, cette politique s'élargit à la clientèle. L'an dernier, l'assureur a ajouté 4 couvertures inclusives à ses forfaits d'assurance collective. L'une d'elles rembourse certains médicaments et soins reliés à l'affirmation de genre. C'était « Votre entreprise est-elle assez diversifiée et inclusive ?» un texte d'Annie Lafrance, paru le 20 janvier 2025 dans Le Soleil.
Personnes handicapées, la Nouvelle-Écosse accusée de lenteur pour arrêter l'institutionnalisation, un texte paru le 21 janvier 2025 dans Radio-Canada. Le 1er janvier, la Nouvelle-Écosse a mis fin à toute nouvelle admission de personnes handicapées dans des institutions. Toutefois, ils sont encore trop nombreux à vivre dans ces établissements, faute de ressources pour les aider à vivre dans la communauté, déplore la Coalition pour les droits des personnes handicapées de Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, historiquement, des personnes handicapées ont été placées dans des institutions comme des foyers de soins. En 2021, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse affirmait que la province discrimine les personnes handicapées. Dans une décision, elle obligeait le gouvernement à réformer son soutien aux personnes handicapées. La province avait jusqu'au 31 mars dernier pour mettre fin aux nouvelles admissions dans les établissements, échéancier qu'elle n'a pas respecté. Le gouvernement s'était défendu à l'époque en disant qu'il fallait plus de temps pour embaucher du personnel, pour aider les personnes handicapées dans leur nouveau logement et pour ajuster le modèle de financement. La semaine dernière, le gouvernement a publié un communiqué indiquant qu'il n'y avait plus de nouvelles admissions de personnes handicapées en institution depuis le 1er janvier. Des prisonniers. Or, il reste encore des personnes qui vivent dans ces institutions, faute de ressources pour aller ailleurs. C'est ce que déplore la porte-parole de la Coalition pour les droits des personnes handicapées de Nouvelle-Écosse. Elle a elle-même passé 10 ans dans une institution, contre son gré. Et selon elle, chaque jour où une personne handicapée est forcée de rester dans une institution est une journée de trop. Je comprends à quel point c'est dégradant pour les gens d'être dans une institution comme s'ils étaient pris au piège, comme des prisonniers, raconte Vicky Levac. Fermeture des institutions d'ici 2028. En novembre 2023, le premier ministre Tim Houston s'était excusé aux personnes handicapées pour le tort ainsi que pour la discrimination historique et systémique qu'elles avaient subie. Si la réforme du système est aussi longue, c'est qu'il ne s'agit pas d'une grosse priorité pour le gouvernement, estime Mario Lévesque, professeur de sciences politiques à l'Université Mount Allison. Le ministre responsable du dossier, Scott Armstrong, n'était pas disponible pour une entrevue lundi. Dans une déclaration écrite, son bureau affirme que le gouvernement met en œuvre une approche progressive pour la fermeture des établissements et le déplacement d'ici 3 ans des 702 personnes handicapées qui y vivaient en date du 31 décembre dernier. Cette approche garantit que nous disposons du temps nécessaire pour mettre en place les mesures de soutien au niveau communautaire afin d'aider les personnes handicapées lorsqu'elles déménagent et que les établissements ferment leurs portes, précise le ministère des Opportunités et du Développement social. Toutes les institutions accueillant des personnes handicapées doivent fermer d'ici 2028 et leurs résidents devront être relogés. C'était Personnes handicapées, la Nouvelle-Écosse accusée de lenteur pour arrêter l'institutionnalisation, un texte paru le 21 janvier 2025 dans Radio-Canada.
Un droit à la parentalité bafoué. Un texte de Rima El-Khoury, paru le 13 octobre 2024 dans la presse. Bien que le droit à la parentalité des personnes handicapées soit reconnu par une convention des Nations Unies ratifiée par le Canada en 2010, trop de parents, qu'ils aient une déficience physique ou intellectuelle, voient ce droit bafoué, constate Evelina Pitouche, qui a consacré sa thèse de doctorat à cette question. La difficulté d'obtenir du soutien à domicile et de le maintenir dans le temps une fois obtenu, c'était un défi qui ressortait presque systématiquement pour les parents, dit-elle. Plusieurs me décrivaient un parcours du combattant. Ergothérapeute et chercheuse, il arrive trop souvent que ce parcours se solde par un signalement injuste à la DPJ, non pas parce que les parents handicapés sont négligents, mais parce que les services pour les aider, en amont, sont insuffisants et inadéquats, note la chercheuse. C'est ce qui est arrivé à Julie et Martin, un couple dont j'avais raconté l'histoire cauchemardesque en 2021. Alors que ses parents avaient tout prévu pour accueillir leur bébé le mieux possible, on le leur a arraché des bras à la naissance et ils ont dû se battre pour le retrouver. Même quand la DPJ n'est pas mêlée au dossier, les absurdités ne manquent pas. Car, bien que la politique québécoise de soutien à domicile, chez soi le premier choix, dise noir sur blanc que ce soutien inclut une aide aux parents dans l'accomplissement de leurs rôles parentaux qui tient compte de leurs limitations, l'organisation des services sur le terrain, avec des petites cases le plus souvent conçues pour offrir un service à une personne et non à sa famille, donne souvent lieu à des situations kafkaïennes. Si le CIUS de la Capitale-Nationale offre déjà un programme de services intensifs de soutien à domicile qui inclut l'assistance aux rôles parentaux, c'était jusqu'à tout récemment l'exception qui confirme la règle. J'ai rencontré plusieurs parents qui, sans problème, avaient accès à des heures de soutien pour leur service personnel à domicile. Mais, du moment que ça impliquait leur enfant, on avait toutes sortes de situations incongrues. Par exemple, faire la lessive de l'adulte, ça allait. Mais s'il y avait des vêtements de bébé, ça ne passait pas, raconte la chercheuse. les petites cases ne sont pas seulement celles des formulaires du CLSC. Ce sont aussi celles dans lesquelles, souvent inconsciemment, on emprisonne les personnes qui ont un handicap, soulève Evelina Pitouche. En général, on a encore comme société une vision très négative des situations de handicap. Ça ne sort pas de nulle part, tous les biais et les préjugés à l'égard de personnes dans cette situation. Au lieu de voir des différences qui nous invitent à faire les choses autrement au quotidien, on se rabat sur des attitudes négatives. Trop souvent, on s'attarde aux seules limitations de la personne en occultant ses capacités et ses forces. On oublie trop souvent que ses parents font preuve de capacité d'adaptation. Ceux qui sont en situation de handicap depuis leur naissance ont eu à s'adapter toute leur vie parce qu'on est dans une société qui est malheureusement peu accessible. On oublie leur capacité d'apprentissage, de débrouillardise, de créativité, mais aussi tout l'amour qu'ils portent à leur enfant. Ça, c'est dommage. Souhaitons que le nouveau programme montréalais de soutien parental contribue à changer cette vision et soit étendu partout au Québec. Pour que l'accès à une aide adéquate ne dépende ni du code postal d'un parent aimant, ni de la petite case pleine de préjugés dans laquelle on tend à l'enfermer. C'était « Un droit à la parentalité bafouée », un texte de Rima El-Khoury paru le 13 octobre 2024 dans La Presse.
Le ministre Carman demande à Santé Québec d'agir, un texte de Caroline Touzin et Tommy Chouinard paru le 22 janvier 2025 dans La Presse. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, demande à Santé Québec d'agir pour sortir de la rue le couple d'itinérants vivant avec une déficience intellectuelle réfugiés dans le métro de Montréal depuis 2 ans. Je demande que les gens du réseau travaillent ensemble et prennent en charge ce couple-là le plus rapidement possible, a indiqué M. Carman, en marge d'une réunion du caucus caquiste à Saint-Sauveur. Une enquête de La Presse révélait ce matin que le jeune couple vulnérable avait élu domicile à la station de métro Radisson sur la ligne verte il y a environ 2 ans. Le jeune couple réclame un toit, mais il refuse d'être séparé. Deux Sius et le curateur public du Québec sont au courant de la situation. L'homme de 32 ans est sous la tutelle du curateur public du Québec, puisqu'il est inapte aux yeux de l'État. La jeune femme, elle, est considérée apte, bien qu'elle vive dans un état de vulnérabilité extrême. Le couple est suivi par des travailleurs sociaux provenant de 2 Sius différents. La crise de l'itinérance est-elle devenue à ce point aiguë qu'on tolère des itinérants vivant avec une déficience intellectuelle dans le métro, a demandé le représentant de La Presse au ministre responsable du dossier de l'itinérance ce mercredi. « Non, a répondu le ministre Carman, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. J'ai été neurologue. Je me suis occupé de patients avec des déficiences intellectuelles. » Le ministre a alors énuméré des programmes qu'il a lui-même mis sur pied ou encore que son ministère a financés destinés à cette clientèle. Ils peuvent être pris en charge avec du soutien au logement, a-t-il insisté. On essaie de voir si on peut les orienter vers une entrée rapide en logement. Ce serait une piste de solution, a ajouté le ministre Carman, ajoutant que la situation était particulièrement complexe puisqu'il s'agit d'un couple et que 2 Sius différents s'occupent de ces patients-là. Le ministre Carman est intervenu ce mercredi après avoir pris connaissance du reportage pour demander aux 2 Sius de travailler ensemble. Aux yeux du ministre Carman, cette histoire démontre que ce n'est pas juste des refuges que ça nous prend, ça prend plus de logements. Le ministre Carman promet de suivre la situation de près. Il faut leur donner, aux CIUS, un certain temps. Ce n'est pas une situation simple, insiste-t-il. Je pense qu'ils, les deux itinérants, doivent être évalués de façon conjointe et par les deux établissements impliqués jusqu'à présent. Honteux et aberrant, critiquent les partis d'opposition. Le Parti québécois, PQ, qualifie la situation d'échec honteux du système de santé et des services sociaux. La situation que vit ce couple, réfugié dans le métro, est un échec honteux en matière de services sociaux et du devoir de l'État de protéger les plus vulnérables, a réagi le député péquiste Joël Arsenault. Ça fait 2 ans que ça traîne dans les mains du ministre et voilà qu'il redemande encore plus de délais et se déresponsabilise en balançant le dossier dans la Cour de santé Québec. Pour sa part, le Parti libéral du Québec qualifie la situation d'aberrante. Qui a fermé les yeux? Le ministre Carman a attendu la colère de la population, suscitée par les révélations des médias, pour agir, a affirmé la porte-parole de l'opposition en matière de services sociaux, Elizabeth Price. Combien d'autres cas similaires sont connus par des CIUS et ne sont pas pris en charge? Comment le ministre va-t-il s'assurer qu'une telle situation ne se reproduise pas? Va-t-il demander une révision des listes dans les CIUS? Aux yeux de la députée libérale, le gouvernement Legault continue d'abandonner les plus vulnérables de notre société. Inacceptable, dit Québec solidaire. Pour sa part, le député solidaire responsable du dossier de l'itinérance, Guillaume Clich-Rivard, affirme que cette histoire brise le cœur. C'est inacceptable que ces jeunes soient forcés à vivre dehors depuis des années sous les yeux du gouvernement, a-t-il réagi. Les élus de la CAQ ne peuvent pas rester insensibles à leur détresse. Québec solidaire demande au ministre Carman de faire preuve de leadership pour leur trouver un toit. Il n'a plus d'excuses, conclut le député Clich-Rivard. C'était « Le ministre Carman demande à Santé Québec d'agir », un texte de Caroline Touzin et Tommy Chouinard, paru le 22 janvier 2025 dans la presse.